boîte, Cédric Adrovert.
Du bois partout. On n'est pas dans la forêt, mais pas loin quand on met les pieds chez Schwab System à Gampelen. Des présentoirs en bois, des plantes, des nids d'oiseaux, des sculptures ornent le hall d'entrée. Et l'odeur typique qui va avec agréable. Ah oui, on est tout neuf, on est tout bien, me dit la secrétaire à l'accueil. Oui, l'entreprise était située après, l'avant, mais maintenant tout est centralisé. Mon invité arrive, quelques minutes après moi, on s'installe dans la salle John Schwab, le fils d'Alfred Schwab qui a fondé la société, qui lui est le grand-père de Pascal Schwab, qui lui est le père de mes invités de ce soir. Voilà, si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas bien grave, retenez que c'est la quatrième génération qui arrive aux commandes de la société, qu'ils sont frères et sœurs, nés le même jour, mais pas la même année, qu'ils ont 27 et 30 ans, mais qu'ils n'ont pas l'air comme chien et chat, au contraire, en préparant l'émission, quand lui nous a rejoint, ils se sourient, s'embrassent, plaisantent ensemble, encore maintenant, 5 minutes avant l'antenne, c'était le cas. Évidemment, vous avez déjà sûrement deviné leur nom de famille, reste le prénom. Alors, on va les accueillir tout de suite. Bonsoir, Leïla et Marco Schwab.
Bonsoir.
On va parler avec vous deux de vos activités, de la stratégie de l'entreprise, des défis qui se présentent à vous. Mais avant ça, on va parler de votre jeune mais riche parcours, honneur aux dames. Leïla Schwab, quel est le chemin qui vous amène à co-diriger l'entreprise aujourd'hui ?
Alors, dans mon parcours, j'ai fait d'abord un bachelor et j'ai commencé de manière un peu spéciale, on va dire, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, à faire l'école hôtelière à Lausanne. Donc vraiment avec une formation axée au niveau du management. Et en fait, finalement, j'ai appris plein de choses pendant cette formation qui me servent aujourd'hui tous les jours parce que c'est pas utile que pour l'hôtellerie, c'est aussi utile pour l'industrie du bois.
Vous avez déjà en tête de reprendre l'entreprise un jour ?
Alors, pas au début de ma formation, non. Ça s'est vraiment fait par la suite. J'ai eu des expériences professionnelles pendant cette formation. Je me suis rendu compte que j'adorais le travail de commercial, le travail de marketing, des aspects de gestion, d'organisation. Et finalement, je me disais que ce serait plus utile de les faire dans l'entreprise de ma famille plutôt que n'importe où ailleurs.
Et une carrière académique qui a continué. Vous avez terminé il y a pas longtemps un doctorat.
Exactement. Donc, ensuite, j'ai enchaîné avec un master ici à l'université de Neuchâtel, à côté de mon travail déjà dans l'entreprise. Et puis, suite à ça, j'ai eu l'opportunité de faire un master, toujours en sciences économiques, spécialisation management, que je vais défendre dans quelques semaines. Donc, c'est vraiment à bout touchant.
Une formalité.
On espère.
Un parcours académique donc, qui est le vôtre. Marco, vous avez eu besoin d'être au contact plus rapidement avec la matière première.
Exactement. Alors moi, quand j'ai fini le gymnase français de Bienne, j'hésitais un petit peu encore à trouver ma voie. Justement, j'étais pas encore vraiment sûr de ce que je voulais faire. Et puis, je suis allé déjà visiter aux portes ouvertes de différentes universités, à l'EPFL, j'étais allé voir parce que le domaine du bâtiment m'intéressait quand même déjà pas mal. Et puis, j'ai pas vraiment trouvé ce que je recherchais à l'IPFL en architecture, par exemple. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait à Bienne, à l'école Suisse du Bois, justement, des portes ouvertes. Et puis, je suis allé à la journée. Et puis là, j'ai vraiment eu le coup de foudre, quoi, vraiment. Quoi. Ça m'a tout de suite parlé. J'ai pu aussi discuter avec un étudiant qui faisait la présentation, qui avait fait le même parcours que moi. D'abord, un parcours aussi au gymnase, puis ensuite intégré l'école technique. Et puis, c'était vraiment super, quoi. Ça m'a tout de suite parlé. Et puis, du coup, j'ai fait 3 ans après pour faire un bachelor aussi. Dans cette école pour devenir ingénieur en technique du bois.
Mais là aussi en tête, le fait d'un jour revenir dans l'entreprise familiale ?
Alors, aussi, mais disons que c'est vraiment en fait, c'est pas qu'à la fin du gymnase, je savais déjà que je voulais reprendre l'entreprise. J'étais vraiment libre aussi, on n'avait aucune pression non plus d'un point de vue des parents ou bien comme ça. Et puis c'est vraiment avec la formation et puis les attraits, parce que j'aime quand même toujours bien le bois comme matière première. J'avais aussi toujours, pendant mes périodes de vacances, travaillé dans l'entreprise, toujours mettre la main à la pâte un peu. Puis c'est ce qui m'a plu avec cette école, parce que je retrouvais cet aspect du bois, vraiment, tous les jours. Et puis l'aspect aussi un peu plus calcul, etc., qui m'intéresse, quoi.
Ce parcours très différent que vous avez l'un et l'autre aujourd'hui vous permet de vous spécialiser dans la gestion de l'entreprise, ou vous cherchez tous les deux à un peu tout faire ?
Alors je pense que dans un premier temps, ça nous permet vraiment de nous compléter de manière très efficace. Vous le constaterez sûrement ce soir dans nos réponses aux questions. Maintenant, on est rodés dans le sens où on a l'habitude de savoir voilà, quels sont les sujets dont Marco est spécialiste et les sujets que moi, je maîtrise peut-être un peu plus. Mais je dirais, d'un autre côté, on a aussi cette volonté d'échanger et de chacun partager avec l'autre les connaissances qu'on a. Toutes les décisions importantes, stratégiques, on va toujours les prendre ensemble, peu importe que ça concerne la finance ou les choix de nouveaux marchés à développer. Donc,
si vous n'êtes pas d'accord,
est-ce que ça arrive?
Ça peut arriver, mais disons qu'après, on fait intervenir encore la troisième génération qui vient trancher la question.
C'est vrai que trois générations, c'est fréquent. Quatre générations, c'est déjà un petit peu plus rare. C'est une sorte de pression pour vous ou pas du tout, le fait d'arriver derrière tout un héritage familial?
Alors, je pense que c'est un honneur plus qu'une pression, d'abord, parce que bien sûr qu'on est très fiers de l'entreprise, de ce qu'elle est, et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de tout ça, on n'a pas besoin de tout construire nous-mêmes. Donc bien sûr qu'il y a une volonté de faire le mieux possible, et puis de pouvoir faire perdurer l'entreprise, mais je dirais qu'on a la chance énorme aussi de ne pas avoir derrière nous des gens qui nous ont mis beaucoup de pression, etc. On a plutôt des parents qui ont confiance en nous et en l'avenir de l'entreprise. Donc voilà, c'est une chance pour nous, je dirais.
Aujourd'hui, votre père, il est toujours actif ou il vous laisse les clés?
Alors, il est toujours actif. Il nous laisse les clés pour certains domaines qui sont vraiment nos domaines de prédilection. Donc, tout ce qui s'agit d'ingénierie, c'est vraiment Marco qui prend les décisions, qui gère. Moi, j'ai aussi certains domaines en finance, en marketing, en commerce, enfin en vente, etc. où il va me laisser aussi le choix de certaines décisions, mais bien sûr que lui a une présence, je veux dire, ça reste lui qui est le directeur principal de l'entreprise actuellement.
Vous, Leïla, vos études ont notamment porté sur la gestion de la croissance en entreprise, et c'est vrai que grandir, c'est un défi pour de nombreuses sociétés, la vôtre aussi. Vous êtes passé de 20 employés en 2012 à une septantaine aujourd'hui. C'est quoi les risques et comment les éviter quand on a un parcours, une ascension aussi grande?
Alors, c'est justement une des problématiques que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse de doctorat, en fait, cette question de gestion de la croissance. Et ce que j'ai observé, qui était très intéressant, c'est que finalement, un des principaux défis, c'est de ne plus être à même de prendre toutes les décisions qu'il faut prendre pendant une phase de croissance. Parce que il y a des décisions très importantes, stratégiques, tactiques à prendre chaque semaine et plusieurs parfois par semaine. Et en fait, c'est un rythme qui est très difficile à tenir parce que c'est un rythme qui fait peur. Et le principal risque, il y en a d'autres, mais celui-là en est un, c'est de ne plus être à même de prendre ses décisions à un rythme suffisant pour réussir à réorganiser l'entreprise au fur et à mesure de sa croissance.
Mais garder une atmosphère familiale dans une société, passer 50 employés, c'est encore possible ?
C'est encore possible. Je dirais que là, on a fait attention de justement de garder cet esprit. Je veux dire, pour nous, nos employés comptent. Quand on dit qu'on est une entreprise familiale, on les inclut aussi dans ce concept-là. Donc pour nous, c'est vrai que c'était important qu'ils puissent continuer de se sentir très bien dans le bâtiment qu'on a construit ici à Gampelen, dont Marco est d'ailleurs fait partie de la conception. Il y a vraiment eu toute une réflexion pour qu'ils aient des places de travail agréables, qu'ils aient des conditions de travail avec de la lumière naturelle, avec vraiment des espaces qui soient intéressants pour eux au quotidien. Et ça fait partie, par exemple, des choses que c'est pas parce qu'on est devenu une entreprise plus grande, qu'on y attache moins d'importance, au contraire.
Il y a aussi des activités pour rapprocher les gens, les employés?
Oui, on fait souvent aussi des sorties de boîte aussi, on essaie vraiment de...
Comme ici.
Exactement. On essaie vraiment de rassembler toutes les personnes de l'entreprise, et puis on essaie quand même toujours de garder cette proximité avec les personnes. On est aussi attentif... Aussi, s'il y a des naissances dans des familles, etc., on essaye aussi de faire aussi après de rester proche, etc., pour aussi garder ce contact vraiment familial qu'on avait, qu'on était aussi plus petit, puis qu'on essaye de maintenir maintenant dans cette plus grande structure.
Quand on parle de vos domaines d'activité, on doit y aller au pluriel. Hein. Vous les classez en trois catégories d'ailleurs, les maisons, les auditoires et le reste. Alors on va commencer par les maisons, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Saturbois. Est-ce qu'on peut faire n'importe quelle habitation avec du bois?
Oui, on peut. Tout est possible avec le bois. Disons qu'on n'a pas de, limite avec le bois. C'est vraiment un matériau qui est vraiment à la pointe de la technologie aujourd'hui. On arrive vraiment à faire n'importe quelle structure avec du bois. En plus, tout ce qui est normes de construction facilite aussi la mise en place du bois dans des bâtiments, typiquement maintenant dans des hôpitaux ou bien dans des bâtiments qui seraient peut-être un petit peu plus sensibles aussi aux personnes âgées, etc. On peut très facilement maintenant faire des bâtiments en bois, alors qu'il y a une dizaine d'années, on était vraiment limité, il n'y avait que certaines zones qu'on osait faire en bois, puis on était beaucoup plus limité à certains domaines, tandis qu'aujourd'hui, on a vraiment les limites sont repoussés plus loin. Quoi, encore.
Avant de construire, les gens se posent quand même souvent des questions par rapport aux incendies, par rapport au bruit, par rapport à l'usure du temps, tout ça, c'est des réalités quand même ou c'est des préjugés qu'on a sur le bois?
Alors, comme on le dit souvent, il y a un petit peu l'histoire des trois petits cochons qui nous portent certaines fois un peu préjudice, parce que évidemment, ben la maison la plus solide, c'est celle du troisième cochon qui est en brique, qui est vraiment la plus robuste. Mais le bois, on le voit aussi aujourd'hui encore avec des tout vieux bâtiments, par exemple en Valais, les plus vieux bâtiments sont en bois, comme des vieux mayens, etc. Puis qui ont plusieurs centaines d'années, et puis la structure est toujours là. Donc le bois, c'est clair, est un matériau qu'il faut savoir bien utiliser, mais si on l'utilise correctement et puis qu'on arrive à le mettre en œuvre comme il faut, en respectant certaines choses, on n'a aucun souci pour la durabilité du matériau.
Si quelqu'un vient vous voir avec un projet, vous intervenez en fait à quelle étape? La construction, les plans
Alors en fait, on intervient vraiment au tout départ du projet, si le client a besoin de nous à ce moment-là. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive, admettons sans avoir ni de projet, ni de terrain, etc., ce qui arrive de temps en temps, on va vraiment accompagner la personne pour choisir un lieu de vie, donc un terrain. On va faire des recherches à ce niveau-là. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des terrains, mais on va quand même faire notre maximum pour aider la personne. Et ensuite, on va vraiment s'occuper en fait du projet de A à Z. C'est-à-dire qu'on va commencer par concevoir un projet qui va être personnalisé par rapport aux besoins du client. Donc ce sera, si on prend l'exemple d'une maison, on ne va jamais faire deux maisons identiques. On va vraiment faire une maison qui correspond aux besoins du client, à son budget, à tous les critères qui peuvent entrer en ligne de compte.
Tous les budgets ou quand même des budgets relativement élevés?
Alors, tous les budgets, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, mais disons qu'on
a un coût quand même.
Voilà, il y a quand même bien sûr un certain coût pour accéder à la propriété, ça c'est indéniable. Mais on arrive à faire des maisons avec des budgets beaucoup plus restreints, justement parce qu'on cherche des solutions très efficaces pour aussi avoir des volumes peut-être plus petits, etc.
Vous l'avez évoqué rapidement, il y a de moins en moins de terrain, la nouvelle latte fait que le terrain va venir à manquer. On verticalise d'ailleurs de plus en plus avec du bois, on peut aller haut.
Oui, y a les normes justement par rapport aux hauteurs de bâtiment dépendent en fait des normes de protection incendie. Et puis jusqu'en 2015, on était limité à 6 niveaux hors terre, en bois. Et à partir de 2015, maintenant, les normes ont changé et on n'a plus de limite en fait. On pourrait faire des tours potentiellement jusqu'à 100 mètres de hauteur.
Un gratte-ciel en bois.
Exactement, tout en bois.
Il n'y a pas que les maisons dans vos domaines d'activité, il y a aussi les auditoires notamment. Quand on visite les locaux, Joël Picromain est venu vous rendre visite. Alors du chaque côté du bureau technique, il y a un immense atelier. Dans le premier, on travaille de grosses pièces, comme une charpente par exemple. Dans le second, de plus petites réalisations, comme des gradins, des tables auditoires. On va retrouver Thiago Neves, assistant de direction dans ce second atelier. Il nous explique le défi relevé pour la rénovation de la salle de cinéma Apollo à Neuchâtel.
Sortie de boîte.
Oui, alors la première salle, elle a la particularité qu'avant, elle était en deux parties, donc à plat avec un balcon. Il a été décidé avec Cinépel qu'on allait totalement changer la structure du cinéma en faisant une seule grande salle en pente. Donc finalement, on part depuis anciennement le balcon pour venir en bas en diagonale jusqu'à l'écran. Et il me semble qu'on a fait, on va dire, une première mondiale à ce niveau-là, où toute la dalle sur laquelle se basent les gradins est quasiment entièrement en bois, et c'est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé jusqu'à maintenant, je crois.
Et puis quand on est dans une salle de spectacle, quand on est dans un auditoire, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est le son. Qu'est-ce qui va faire que l'acoustique va être bonne ou pas dans une salle?
La géométrie de la salle, on va dire, est très importante. Et après, c'est certains matériaux, oui, mais c'est après comment ils sont travaillés. Donc généralement, on va utiliser, on appelle ça des panneaux perforés. Donc on va apporter des petits trous un peu partout sur les panneaux pour poser au mieux. Ça, c'est déjà un premier élément qu'on peut apporter généralement dans les grandes salles pour améliorer l'acoustique. On peut aussi poser comme des voiles ou des tissus sur les murs ou au fond de la salle ou même au plafond pour absorber aussi le son. Car finalement, si on a vraiment une salle toute lisse, ça reste des ondes, donc c'est réverbéré et ça revient dans la salle. Tandis que si on apporte aux surfaces quelque chose de plus mou, ou alors avec des imprécisions, des trous, où là les ondes ne peuvent pas être reflétées, alors là ça veut dire que le son ne va pas revenir, il va être absorbé et on aura une très bonne acoustique dans la salle.
Sortie de boîte.
Après ce détour à Gampelen, nous sommes de retour dans notre studio de marin avec nos invités, Leïla et Marco Schwab. Les auditoires, c'est quand même très particulier, le marché des auditoires en bois en plus, c'est un marché de niche, on peut l'évoquer comme ça ?
Alors oui, je pense que c'est sous une certaine forme un marché de niche, effectivement, parce que c'est pas très courant de construire des auditoires, même si pour nous c'est vraiment un domaine d'activité qu'on réalise toute l'année. On a des projets actuellement au niveau suisse, pour des auditoriums, parce qu'on fait aussi plusieurs types de salles. Donc il y a le cinéma, comme l'exemple qu'on vient d'évoquer, mais on fait des salles de concert, des salles de conférences, des auditoires d'université. Et avec tout cela, c'est vrai qu'il y a quand même un grand marché à ce niveau-là.
Il y a une réalisation dont vous êtes particulièrement fier ?
Il y a la salle qu'on a réalisée l'année passée, c'est juste, hein ? Mais il y a déjà 2 ans.
Il y a déjà 2 ans.
Ça fait déjà 2 ans, qui est à Rolle, à l'École internationale du Rosé. Une salle qui est... on voit le bâtiment quand on passe sur l'autoroute. On a une espèce de grande soucoupe volante qui est dans le terrain, là, justement, vers l'école internationale. Et puis, le cœur de cette soucoupe volante est en fait tout un noyau qui est entièrement en bois. Et puis, on a pu, là, justement, faire toute une salle réalisée avec du panneau USB. Et puis qui crée vraiment une atmosphère particulière et vraiment unique dans cette salle.
On peut la visiter ?
Absolument, vous pouvez aller écouter un concert aussi là-bas. Il y a le Philharmonique de Londres qui va revenir y jouer jeudi prochain, si ça vous intéresse.
On prend note.
Voilà.
Il y a un troisième département, on va l'évoquer rapidement parce que le temps passe vite. Il y a un troisième département que vous avez appelé Wattels. On y trouve plein de projets. Vous pouvez donner un exemple ou deux ?
Oui, alors dans le département Wattels, il y a justement... pour simplifier, tout ce qui n'est ni une maison ni un auditoire. Et là-dedans, on compte notamment aussi toutes sortes de projets qui peuvent être des rénovations de toitures, ça peut être des agrandissements, des transformations, c'est des projets que nous faisons aussi beaucoup en ce moment. Tout ça entrerait dans le département Wattels.
On l'a évoqué tout à l'heure, les défis que vous avez. Si aujourd'hui, après le déménagement, c'était un gros défi, aujourd'hui vous deviez évoquer le prochain gros défi pour l'entreprise, ce serait quoi ?
Alors je pense qu'il y en a 2 principaux. Le premier, c'est la diversification. On a vu par le passé que ça nous a vraiment aidé dans toutes les périodes de vie de l'entreprise d'avoir plusieurs domaines d'activité très différents. C'est comme une chaise avec plusieurs pieds. On peut s'appuyer sur plusieurs domaines d'activité pour toujours avoir du travail, ce qui est très important. Et à côté de ça, il y a aussi une question d'internationalisation qui est présente chez nous. On a déjà pensé à se développer à l'international. On doit encore résoudre certaines questions logistiques. On veut aussi garder un rythme qui soit bon et sain pour l'entreprise.
Sur les auditoires, les maisons, les deux ?
Ça peut être les deux. Probablement que ça commencera avec les auditoires, mais ça, c'est encore des questions stratégiques auxquelles on doit répondre ces prochaines semaines.
C'est possible avec les coûts en Suisse, notamment les coûts de la main-d'œuvre, d'avoir une stratégie internationale dans votre domaine ?
Alors oui, c'est possible, pour autant qu'on fasse des choses qui soient spécialisées, sur mesure, très haut de gamme. Et c'est effectivement un des marchés dans lesquels on est positionné et dans lesquels on est performant.
Si je vous demande dans votre département Wattels de me faire une montre entièrement en bois, vous relevez le défi ?
C'est clair.
Facile. Vous ne seriez pas les premiers d'ailleurs. Il y a un sculpteur qui a fabriqué en 2013 une montre avec un tourbillon entièrement en bois. On en parlera peut-être un jour dans notre chronique horlogère. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre projet. La montre en kit, un projet né dans la région.
Pile à l'heure.
On connaît depuis longtemps déjà les maquettes de bateaux ou d'avions à assembler soi-même, ou les autres maquettes d'ailleurs.
La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement.
C'est vous qui avez fait ça ?
C'est une de mes plus belles pièces.
Ah bon ?
Il y a aussi les kits de survie pour ceux qui voyagent sans parler la langue du pays. Il y a ceux qui choisissent de monter leur maison livrée en kit.
On parlait bien de fenêtres, on n'a jamais évoqué des meurtrières. Parce que là, je sais pas ce qu'on va tourner comme film, mais pour l'instant, c'est bricolo-bricolette pour leur cabane. Hein.
Il y a des kits pour faire sa propre bière, des kits pour assembler une guitare électrique. Alors, il fallait bien que ça arrive, une montre à penser et à assembler soi-même. C'est le projet No Clock. Alors, pour être tout à fait franche, le concept Do It Yourself dans l'horlogerie n'est pas totalement nouveau. D'autres s'y sont déjà essayés avec plus ou moins de succès selon les formules. Les cofondateurs de No Clock, ce sont des Biennois. Et le projet est parrainé par Elmar Mock, le co-inventeur de la Swatch.
C'est l'heure de changer d'heure.
No Clock, c'est un kit de base de 12 pièces qui permettent à monsieur et madame tout le monde, oui, même vous, de construire une montre en 12 étapes. Et surtout, il est possible de faire d'une montre sa montre. Donc, si vous êtes bricoleur comme Bob...
Ne traînons pas, le travail n'attend pas. Construire et réparer, tout doit être parfait. Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs.
Ou même si vos enfants veulent exprimer leur créativité...
Qu'est-ce qu'il fait papa comme métier?
Il roule. Il conduit le camion.
Ah, il est rouleur. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait?
La machine.
Elle fait la machine.
T'as vu la belle femme? Oh ouais, elle est belle. Ouais, mais toi, t'as ta chaise à la moitié craquée.
Ton papa mesure 5 mètres.
Oui.
Et ta maman?
6
mètres.
Donc si vous voulez avoir une tête d'opossum dessinée sur le cadran de votre montre No Clock, c'est possible, il faut juste imprimer ça et l'intégrer. Et si vous voulez mettre votre module dans un joli petit coucou, c'est possible. Après 2 années d'expérimentation, une campagne de financement participatif a été lancée. L'ouverture des préventes date seulement du 12 septembre dernier. Il reste quelques jours pour devenir souscripteur. Les initiateurs du projet sont à bout touchant. Le kit de base est à un prix de lancement compris entre 60 et 100 francs.
Pile à l'heure.
Cette chronique et les précédentes, d'ailleurs, vous les retrouvez sur notre site internet et on reparlera de ce projet fin novembre puisqu'un des fondateurs du projet sera notre invité dans Sortie de boîte. On arrive gentiment à la fin de cette édition qui s'est intéressée à Schwab System, une entreprise de Gampelen spécialisée dans la construction en bois. Dans la tête de nos invités Marco et Leila Schwab, il y a toujours quand même un projet un peu fou. Je crois savoir qu'il y en a un qui se dessine au dernier étage de l'entreprise, vous confirmez ?
Absolument. Donc c'est un projet qu'on est en train de développer et de construire actuellement. Et c'est un projet en fait d'escape room. Donc les escape rooms, c'est ce principe ludique finalement où vous êtes enfermé dans une pièce et vous avez un certain temps, 60 minutes en principe à disposition pour essayer d'en sortir en résolvant tout un tas d'énigmes.
Mais quel rapport avec le bois ?
Eh bien justement, en fait de prime abord on n'en voit pas. Et pour nous, il y en a énormément parce que ça va être un très bon produit d'appel finalement pour pouvoir présenter nos locaux, notre savoir-faire à une clientèle qui pourrait être intéressée à ce qu'on fait pour le bois. C'est un point. Et puis accessoirement, on adore les escape rooms. Donc on s'est dit juste parce que c'est fun, on va faire des escape rooms.
Mais il y aura un clin d'œil familial quand même ?
Oui, il y aura 2 clins d'œil familiaux, en fait, par rapport au sujet des salles. Alors j'en révèle pas trop pour l'instant, mais ce sera totalement en lien avec la famille et l'entreprise.
Ça ouvre quand ?
Si tout va bien avant Noël, c'est notre objectif.
D'accord, bah c'est noté, on viendra s'y piéger. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été nos invités. On vous souhaite une bonne suite et une très bonne soirée.
Pareillement, merci.
Merci à vous aussi.
Et la semaine prochaine, nous retrouverons Alizé Lichty avec un projet qui pourra changer la vie de nombreux porteurs de lunettes. Ils connaissent tous le problème de la buée ou des salissures sur les verres. Imaginez qu'elles se nettoient toutes seules dans leur boîte. Eh bah, bien, ça pourrait être possible. On en parlera jeudi prochain. Même heure, même endroit. Excellente soirée.